Merci Samuel. Bonjour à tous. Alors juste, effectivement, aujourd'hui, nous avons un message. Il ne s'agit en aucun cas d'un message de Stéphane, ça c'est sûr. C'est un message que le Seigneur, je pense, a pour chacun d'entre nous et qui aujourd'hui sera fait au travers des paroles de Moïse, comme on le voit dans le Deutéronome, où Moïse avait un message particulier pour son peuple et qui est encore actuel de nos jours. Je vais commencer par la prière. Oui, c'est vrai, Seigneur, on peut voir que ta parole, elle est vraiment pour toute l'humanité, pour tous les temps. Ce que tu avais déjà à dire à nos ancêtres, même très lointains, ben, c'est encore tout à fait présent pour nous aujourd'hui. Je voudrais simplement te demander de... Mais voilà, que ces paroles que tu vas me permettre de prononcer puissent toucher le cœur de chacun de la manière dont tu as toi-même prévu. C'est vrai que tu as un plan pour chacun d'entre nous, mais Seigneur, tu veux avant tout que chacun d'entre nous, qu'aucun ne puisse se perdre, que chacun puisse faire le choix de te suivre. Et Seigneur, que voilà, au travers de ce message que toi-même tu as pour chacun d'entre nous ce matin, que tu puisses toucher le cœur de chacun, que tu puisses aussi lui toucher dans le sens de manifester ta présence et que nous puissions ressentir ce bien-être, cette paix que nous avons d'être avec toi. Amen. Alors, comme je disais, c'est un message qui s'appuie sur, on l'a déjà pu le voir sur la dernière image projetée par Katiana, sur le livre du Deutéronome. Alors, le Deutéronome, c'est un livre qui contient les trois derniers discours de Moïse pour le peuple d'Israël. Les trois derniers, parce qu'il savait déjà d'avance, le Seigneur lui avait appris qu'il allait bientôt mourir, et en particulier qu'il allait mourir avant de voir et de profiter de la terre promise pour laquelle finalement il a traversé. Il est sorti avec le peuple d'Israël d'Égypte. Ils ont traversé le désert pendant une très très longue période. Et au bout de tout cela, finalement, lui, il ne va pas avoir cette chance de profiter de la terre promise, mais il est encore le porte-parole du Seigneur. Il a encore des choses très, très importantes à dire au peuple d'Israël, et encore d'autant plus importantes qu'il sait que c'est les dernières fois qu'il a à s'adresser à eux. Donc, il essaie vraiment de leur dire ce que le Seigneur a mis sous son cœur. Il essaie vraiment de leur laisser un message qui va leur être utile pendant tout le temps où lui ne sera plus là, mais pour qu'eux ne se perdent pas. Il s'adresse vraiment aux enfants d'Israël comme un père avant de mourir. Et le but du Deutéronome, c'est de préparer les Israélites, après la sortie d'Égypte, après la traversée du désert, à la possession, finalement, de toutes les bénédictions que l'Éternel voulait leur donner dans le pays de Canaan. Mais pour pouvoir profiter de toutes ces bénédictions, Moïse a un message très, très important pour eux. Moïse a à leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est tout à fait essentiel pour pouvoir profiter des bénédictions du Seigneur, c'est l'obéissance. L'obéissance à la loi que nous a donnée notre Seigneur. Et c'est extrêmement important pour que le Seigneur, effectivement, prenne plaisir à ce que nous faisons et que nous puissions, nous, profiter de toutes les bénédictions qu'il a pour nous. L'obéissance au commandement de Dieu conduit à la bénédiction. Et comme on l'a vu, la désobéissance au commandement de Dieu entraîne la malédiction et le jugement. C'est un choix que nous avons à faire. C'est un choix qu'avait à faire le peuple d'Israël à l'époque de Moïse. Et nous sommes aussi confrontés à ce choix-là aujourd'hui. Et ici même, ce matin. Nous sommes tous concernés, tous sans exception. Et c'est pourquoi je voudrais aussi m'adresser en premier lieu aux enfants, aux jeunes qui sont dans la salle. Pourquoi d'abord aux enfants? Parce que je sais que dans une prédication, leur attention est plutôt fluctuante et en général, elle va pas durer très très longtemps. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle qui sont peut-être distraits, en train de regarder un livre, en train de discuter avec sa voisine. Souvent, les jeunes se disent au moment de la prédication, maintenant c'est le moment des adultes et que nous, on va pouvoir s'égarer à faire des choses entre nous, à rigoler, à regarder des jeux. Mais là, j'ai envie que cette prédication, en tout cas là, pour le début, soit vraiment pour vous, les enfants. Et je voudrais vous parler pendant que j'ai encore votre attention, avant que, comme ça ne va pas durer longtemps, que vous puissiez, vous commenciez à passer à d'autres choses. Alors, qui se souvient du message qu'on a eu dimanche dernier ? Quel était le thème du message que nous a apporté ? L'obéissance à qui ? Aux parents. Et pourquoi ? Pourquoi faut-il obéir aux parents ? Oui ? J'ai pas entendu ? Oui, parce que ça fait plaisir à Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Et il y avait une autre raison aussi. Pour votre protection. Parce que effectivement, vos parents vous aiment, et s'ils vous donnent des ordres, souvent, c'est aussi pour votre protection, pour votre bonheur, et c'est très, très bien de vous souvenir. Dans ce message, comme je viens de le dire, il va encore être question d'obéissance, et on a vu la semaine dernière que c'était bien pour les enfants d'obéir à leurs parents, et aujourd'hui, on va parler d'un autre type d'obéissance à Dieu. Est-ce que c'est difficile d'obéir à Dieu, à votre avis ? Oui. Est-ce qu'on a, nous avons vraiment envie d'obéir à Dieu ? Ou est-ce qu'on le fait parce qu'en fait on est obligé, parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est Dieu et qui nous oblige à le faire ? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants ? Hein ? Vous obéissez parce que vous n'avez pas le choix, c'est un ordre, ou est-ce que vous obéissez pour une autre raison ? En fait, ce n'est pas complètement vrai. Le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas l'obéissance, c'est le choix. En fait, l'obéissance à Dieu, c'est un choix. C'est un choix que nous avons chacun. Dieu nous a laissé le libre choix de le suivre ou de ne pas le suivre. Et en fait, Dieu nous demande de faire ce choix, de lui obéir. Ce n'est pas une obligation. Mais c'est un choix, comme on l'a vu, qui peut avoir des conséquences très importantes dans votre vie et dans notre vie à tous. Je sais que les enfants, ils aiment bien avoir le choix. Qu'est-ce que vous aimez choisir ? Oui ? Vous aimez choisir vos cadeaux d'anniversaire. Par exemple, il y en a une qui a eu son anniversaire cette semaine. Elle était très, très contente que certains des cadeaux soient conformes à ses choix. Vous aimez choisir quoi encore ? Vos programmes télé, hein ? Vos jeux, voilà. Le repas. Il y a plein de choses que les jeunes aiment bien choisir. Et vous choisissez, en fait, en règle générale, quoi ? Ce qui vous rend heureux. C'est ça, en fait, en général, votre choix. Avec Dieu, c'est pareil. Dans la Bible, Dieu nous dit de choisir ce qui va nous rendre heureux. Et c'est très important dans la vie, pour notre vie, pour votre vie, de savoir faire le bon choix. Le choix qui va vous rendre heureux. Parce que c'est ce que vous voulez pour votre vie. Vous voulez être heureux. Alors, comment est-ce qu'on peut faire le bon choix ? Pour en avoir une bonne idée, je vous invite, et en particulier les enfants, à prendre votre Bible, pour ceux qui en ont, et vous pouvez, si vous en avez dans votre sac, vous le prenez, vous pouvez regarder aussi à côté de votre voisin ou m'écouter. Vous allez voir que ce petit texte nous explique vraiment comment est-ce qu'on peut faire le bon choix pour être heureux dans sa vie. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30. Je laisse la possibilité, un peu de temps, quelques secondes, pour que vous puissiez trouver le passage. Donc, Deutéronome, chapitre 30. Lisons au nom du Seigneur. À partir du verset 15. Verset 15, Deutéronome chapitre 30. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, de l'autre, la mort et le malheur. Je vais lire dans la Bible, ce sera encore mieux, parce que j'ai déjà prévu ma page. Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté, la vie et le bonheur, et de l'autre, la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qui vous le trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. En faisant cela, vous aurez la vie Vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. Mais si votre cœur se détourne de lui, si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre en témoin, à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres Abraham, Isaac et Jacob. Est-ce que le choix ne vous apparaît pas déjà beaucoup plus clairement? Et je continue de m'adresser en priorité aux enfants pendant que j'ai encore leur attention. Les adultes viendront juste après. Alors, juste vous raconter très brièvement mon histoire à moi. C'est vrai que moi, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, comme ceux qui sont dans l'église, mes parents, j'avais la chance que mes parents soient chrétiens et ils m'amenaient à l'église tous les jours. Donc, tous les dimanches, je devais mettre mes beaux habits du dimanche et j'allais à l'église. Ce qui veut dire que le dimanche, il n'y avait pas de grâce matinée. Hein, il fallait se lever tôt, comme les jours d'école, mais c'était pour l'église ce jour-là. Mais j'étais quand même content d'aller à l'église, parce que même si quelque part j'étais obligé, parce que je savais qu'à l'église, j'allais retrouver mes copains. Amandine est très, très heureuse de venir à l'église le matin, parce qu'elle sait qu'elle va retrouver ses amis qui sont autour d'elle, qu'elles vont discuter. C'est vrai que pour moi aussi, c'était une bonne raison. Je savais que j'allais passer un moment agréable avec les copains, que aussi, quand en dehors des heures de culte, on allait pouvoir jouer comme font souvent les garçons, courir, jouer à cache-cache, défoncer les portes, tout ça. J'ai fait tout ça, et tout ça, ça se passait à l'église. Et j'étais aussi heureux d'aller à l'église parce que je savais que j'allais pouvoir m'amuser. Mais dans le même temps, pendant que j'étais à l'église, j'entendais parler de Dieu. Je prêtais plus ou moins attention, mais j'entendais parler de Dieu toutes les semaines. Et du coup, je connaissais la plupart des belles histoires qu'on a dans la Bible. Hein, l'histoire d'Abraham, l'histoire de David le berger qui devient roi, l'histoire de Moïse dont on parle, qui sort d'Égypte, qui traverse le désert pour aller vers la terre promise. L'histoire de Daniel qui est jeté dans la fosse aux lions sans être mangé. Toutes ces histoires, je les connaissais parce que j'avais la chance d'aller à l'église tous les dimanches. Plus important encore, l'histoire de Jésus-Christ. Jésus qui accomplit plein de miracles, qui guérit des malades, qui marche sur l'eau. Il ressuscite même les morts. Et puis il meurt crucifié sur une croix. Mais Jésus est plus fort que la mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Jésus est plus fort que la mort et il est notre sauveur parce qu'il peut nous sauver de la mort. Lui, il a vaincu la mort, donc il peut nous permettre, il peut nous sauver de la mort parce que lui, il a prouvé qu'il était plus fort. Il peut nous délivrer aussi du péché. Vous le savez, Jésus a vécu sa vie sur terre sans aucun péché. Donc, il a cette légitimité pour nous dire qu'il peut nous délivrer du péché. Mais ce qui est encore plus important, c'est que Jésus-Christ nous aime. Il nous aime plus que tout. Il nous aime au point qu'il a accepté de mourir crucifié sur une croix. Vous vous rendez compte? Jésus est mort sur la croix pour nous. Jésus veut nous sauver. Il nous tend la main. Il nous demande de le suivre. Il veut sauver notre vie et il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous fassions un choix qui nous rende heureux. C'est très important pour tous les enfants en particulier, et même pour les adultes qui sont dans l'église aujourd'hui, de savoir que même si vous venez à l'église tous les dimanches, même si vous connaissez toutes les belles histoires de la Bible, même si vous savez que Jésus, vous avez appris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, pour être sauvé, Pour faire partir la famille de Dieu, vous avez besoin de faire un choix. Nous avons tous besoin de choisir et de nous positionner pour notre vie et pour notre bonheur. Ne vous contentez pas de venir à l'église le matin juste à cause de papa ou maman, juste pour jouer avec les copains. À l'église ou à la maison, vous avez appris à connaître Jésus-Christ pour pouvoir faire vous-même le choix de le suivre, de lui obéir. Alors, est-ce que les enfants dans cette salle aujourd'hui sont prêts à suivre Jésus-Christ? Est-ce que les enfants, ce matin, sont prêts à dire à Jésus-Christ, « Oui, je veux te suivre. » C'est une vraie question hein, que vous deviez vous poser à vous-même. On n'est jamais trop jeune pour choisir de suivre Jésus-Christ et d'obéir à sa parole. C'est le plus important pour notre vie et pour notre bonheur. Et souvenez-vous que suivre Jésus-Christ, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une contrainte, c'est un choix que vous faites parce que vous savez que c'est pour votre bonheur. Et vous pouvez se faire ce choix dès aujourd'hui, quel que soit votre âge, enfant, jeune ou adulte. Il n'y a aucune raison d'attendre plus longtemps. Faire le choix entre la vie et la mort, entre le bonheur et le malheur. Et pour ceux, et là je m'adresse aussi à tous, enfants et adultes compris, qui sont encore à la recherche de paix dans leur vie, qui ne savent pas encore très bien vers quelle direction se tourner, pour ceux qui ne savent pas encore quel choix faire pour assurer leur avenir, il y a quelque chose de particulier dans ce message de Moïse à son peuple, pour chacun d'entre nous. C'est quelque chose en fait qui contredit la pensée de ce monde. En effet, la pensée de ce monde, c'est nous dire que ben voilà, notre avenir, notre bonheur, il est conditionné par le niveau de vie de nos parents, par notre éducation, par nos diplômes, par le pays où nous sommes nés, la ville ou même parfois le quartier où nous vivons, accessoirement par nos talents personnels aussi. Mais nulle part dans la pensée du monde, il est question du regard de Dieu sur notre vie et sur notre avenir. Et comme on le voit dans le verset 15 que nous venons de lire, il est écrit « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. » Dans ce passage, les choses sont remises à l'endroit, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. Et c'est lui qui établit les règles les plus essentielles. Dieu nous place devant un choix d'existence. Il nous rappelle que nous avons le choix entre la vie et la mort en fonction de l'action que Dieu mène en nous. Et cela ne dépend pas de notre situation économique ou sociale. Ça ne dépend pas de notre race ou du pays dans lequel nous vivons. C'est un choix universel pour chaque homme et femme. Mais ce n'est pas un choix banal. Il ne porte pas sur un aspect futile, mais au contraire, il change tout et il détermine vraiment qui nous sommes et où nous allons. Il détermine la qualité de notre vie déjà au présent, parce que la vie avec Dieu au présent n'est pas la même. Et il détermine aussi notre avenir et notre destinée de manière certaine. Et dans les versets 15 et 16 que nous venons de lire, il y a écrit, effectivement, « Voyez, je place aujourd'hui devant vous, d'un côté la vie et le bonheur, de l'autre la mort et le malheur. Ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de suivre le chemin qu'il vous trace et d'obéir à ses commandements, ses ordonnances et ses lois. » Pourquoi faudrait-il obéir à Dieu? Est-ce que Dieu ne nous laisse pas d'autre choix que de lui obéir? Comme si nous étions des esclaves forcés de faire des choses contre leur volonté? Est-ce que nous sommes forcés par Dieu et par sa parole d'obéir à la loi et à ses commandements? Beaucoup de religions reposent sur une liste de contraintes, d'obligations, de rites censés nous rendre conformes à la volonté de Dieu, des pratiques qui sont censées nous purifier ou censées nous rendre acceptables pour Dieu, pour être sauvés, par notre propre spiritualité, par notre propre pureté et des mensonges du même type. Il n'y a rien de tout ça ici dans ce passage. Aucune religion, aucune loi, aucun rite de purification. Juste, et ça c'est ce qui est important, une acceptation, une réponse. Une réponse à un amour qui a déjà tout accompli pour nous. Je vous commande, au verset 16, ce que je vous commande aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose de ce message aujourd'hui, souvenez-vous que la parole de Dieu commande et nous recommande par-dessus tout. Ce qu'elle nous commande, c'est d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Ce n'est pas une relation basée sur la contrainte ou sur le mérite. C'est une relation d'amour. Aucun de nos défauts ne nous disqualifie pour Dieu. Aucune de nos qualités n'exigeait pour être acceptable aux yeux de Dieu. Il s'agit d'une relation d'amour, un amour inconditionnel qui appelle une réciprocité de notre part pour s'épanouir en nous. Lorsque deux personnes font le choix de se marier, j'en connais quelques-unes dans la salle, et de vivre leur vie ensemble, elles répondent mutuellement à l'amour de l'un pour l'autre et réciproquement. Il y a une confiance dans la prise de décision, dans le choix qu'elles font, parce qu'il y a une assurance qui s'appuie sur l'amour du futur conjoint, dont nous avons obtenu des preuves. Et chacune des deux personnes concernées s'appuie sur cette confiance en cet amour pour donner en retour son amour à l'autre. Le mariage, c'est d'une certaine façon une représentation terrestre, quoique imparfaite, de l'amour de Jésus-Christ pour nous. Parce que l'amour de Jésus-Christ pour nous, lui, il est parfait. L'engagement avec Christ est donc plus fort encore qu'un engagement de mariage, parce que vous avez l'assurance d'un amour inconditionnel, intemporel et parfait en tout point de la part de Jésus. En revanche, le mariage, c'est plus compliqué. Vous n'avez aucun doute à avoir sur la qualité et sur la pérennité de l'amour que Christ vous porte. Et nous pouvons vraiment, en nous appuyant dessus, dire oui à Jésus. Un oui bien plus fort que dans n'importe quelle mairie ou quelle église un jour de mariage. Et la Bible elle-même, d'ailleurs, nous parle de l'amour de Jésus-Christ dans le même contexte d'un mariage. Et ça, on peut le voir dans Éphésiens 5, je vais le lire, pas besoin d'y aller. Au chapitre 5, verset 25, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors, pour ceux qui n'ont pas encore franchi le pas, avec Christ, soyez conscients qu'on n'est jamais trop imparfait pour devenir chrétien. Ce n'est pas après avoir progressé dans tel ou tel domaine par vous-même, sur votre caractère, après avoir accompli telle ou telle bonne action, tel ou tel rite de purification, que vous deviendrez acceptable aux yeux de Christ. Parce que vous l'êtes déjà aujourd'hui et maintenant. Répondre à l'appel de Christ, faire le choix de Christ, c'est tout simplement répondre à son amour dans la confiance absolue que c'est le meilleur pour votre vie, dans votre vie. Les bonnes actions, oui. L'œuvre de sanctification, oui, seront accomplies avec Christ, avec l'aide de Christ. Parce que précisément, c'est son but pour nous. C'est son but de nous accompagner là-dedans. C'est son but pour toute notre vie. Nous accompagner dans l'accomplissement des œuvres bonnes qu'il a déjà lui-même préparées d'avance. Nous transformer de l'intérieur par la puissance du Saint-Esprit et non par nos propres forces. Répondre à l'appel de Christ, c'est ouvrir la porte pour le laisser entrer et accomplir en nous de merveilleux miracles. C'est un acte de foi. Croire que Christ nous a aimés le premier et qu'il est mort pour nos péchés, afin que notre condamnation soit effacée. De sorte que nous pouvons simplement dire oui à cet amour. de Christ, nous pouvons le dire en toute confiance, comme une future épouse qui est convaincue de l'amour de son futur époux et qui donne son amour en retour, sans contrainte, mais avec la conviction de faire le bon choix. Cette conviction est encore beaucoup plus forte avec Jésus-Christ, parce que son amour est parfait, comme on l'a déjà dit, et parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et ce passage nous le dit bien au verset 16. « En faisant cela, vous aurez la vie, vous deviendrez nombreux et vous serez bénis par l'Éternel, votre Dieu, dans le pays où vous vous rendez pour en prendre possession. » C'est vrai que le contexte de cette phrase dans le Deutéronome, il a d'abord pour objet principal de préparer le peuple d'Israël à la traversée du Jourdain et à l'entrée dans Canaan, dans la terre promise, le pays promis par Dieu. Donc il est question de se rendre dans ce pays pour en prendre possession. Mais ce contexte, en fait, il est le même pour nous aujourd'hui. Nous aspirons à traverser notre vie terrestre et à entrer dans le royaume de Dieu, selon la promesse qui est faite à tous les rachetés. Donc ce verset 16, il s'applique à nous de la même manière, même dans un contexte différent. Le choix de Christ nous donne la vie. Et ça, je le répète, le choix de Christ nous donne la vie. Il ne s'agit pas d'une option facultative dans notre vie, comme pour une voiture d'avoir ou pas des vitres électriques. Ça n'empêche pas la voiture d'avancer. Il s'agit de savoir vraiment si votre vie vaut la peine d'être vécue ou pas. Et je poursuis au verset 17 de notre passage et 18. Mais si votre cœur se détourne de lui et si vous refusez de lui obéir et si vous vous laissez entraîner à adorer d'autres dieux et à leur rendre un culte, je vous préviens dès aujourd'hui que vous périrez à coup sûr. Vous ne vivrez pas longtemps dans le pays au-delà du Jourdain où vous vous rendez pour en prendre possession. Rendez-vous compte que cette parole est prononcée par Moïse au terme d'une longue marche de 40 ans dans le désert pour un peuple qui est fatigué. Ils n'en peuvent plus. Ils marchent vers cette terre promise qui n'arrive jamais. Et on leur dit, si vous refusez de lui obéir, en fait, vous ne rentrerez jamais dans cette terre. Vous vous rendez compte? Imaginez que toute votre vie n'ait pour seul but que de prendre possession de la terre promise par Dieu à vos ancêtres. Et que l'on vous prévient que loin de Dieu, vous ne vivrez pas longtemps, vous ne pourrez pas profiter de la promesse de Dieu, et donc le but de votre vie ne sera jamais atteint. Quelle tristesse. Autrement dit, une vie gâchée, un échec total par rapport à son but principal. Et pourquoi ? À cause d'un mauvais choix. Un mauvais choix concernant l'essentiel, concernant la source de vie, concernant notre avenir, notre destinée. Le choix de se détourner de Christ entraîne des conséquences très graves. Ce mauvais choix nous détourne du but essentiel de notre vie. Nous sommes des créatures de Dieu. Nous lui appartenons. Il nous aime, comme on l'a vu. Il nous aime même malgré notre imperfection. Il n'attend pas que nous soyons parfaits. Seulement que notre cœur lui appartienne, afin que lui-même fasse de nous des créatures parfaites à ses yeux, grâce au sacrifice de Christ pour nos péchés. Ne prenons pas à la légère cet avertissement qui nous est fait dans ce passage. C'est un choix qui détermine notre vie ou notre mort. Ce n'est pas juste une théorie sur la spiritualité comme on peut en trouver dans de nombreux livres, sites internet et autres. Mais, en revanche, ce n'est pas un avertissement pour nous terrifier, pour que nous soyons morts de peur. Mais au contraire, c'est un avertissement pour nous encourager. Pour nous encourager à faire le bon choix. C'est un avertissement positif qui nous explique tout le bénéfice que nous avons à suivre la voie que Dieu a tracée pour nous en Jésus-Christ. c'est un avertissement qui est plein de promesses pour l'avenir. Comme on peut le lire aussi dans le livre d'Ésaïe. Pour ceux qui veulent y aller, vous pouvez me suivre, vous pouvez aller dans le livre d'Ésaïe au chapitre 30. Je vais lire les versets 18 à 21. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. Pour ceux qui cherchent, je vais attendre encore un petit moment, histoire de, que vous n'ayez pas pris votre Bible pour rien. Donc, Ésaïe, chapitre 30, à partir du verset 18. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce. C'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité. Heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Oui, un peuple habite encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus, il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Et je poursuis. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y. Et quand vous irez à droite, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Jusqu'ici la parole de Dieu. Oui, l'Éternel se tient à notre porte avec amour et il attend le moment de nous faire grâce. Lui, le premier, il nous a aimés et il est venu jusqu'à nous pour nous sauver. Et on voit aussi dans ses promesses que ce n'est pas tout. Le Seigneur n'attend pas simplement que nous soyons au royaume des cieux pour bénéficier de toutes ces merveilles. Ça commence dès aujourd'hui, dès maintenant. Dès maintenant, nous pouvons bénéficier de tous les délices de son amour. Dès maintenant, nous pouvons ressentir les effets de son amour dans notre vie, et de manière concrète et de manière constante. Nous pouvons ressentir sa compassion dans les moments difficiles, pour nous soulager et nous relever. Verset 18, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. Nous pouvons ressentir sa justice lorsque nos droits et notre intégrité sont bafoués. Et nous pouvons voir la réalisation de toutes ses promesses. Toujours au verset 18, « En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité, heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Et sa consolation et son écoute sont pour nous chaque jour. » C'est vrai, notre sœur Louise nous a partagé que sa semaine avait été difficile. Mais le Seigneur a été avec elle chaque jour. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Nous pouvons ressentir que le Seigneur prend soin de nous chaque jour et de manière concrète. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. C'est vrai, avec lui, nous ne sommes plus seuls. Mais au contraire, nous sommes encouragés par sa présence et guidés par le Saint-Esprit à tout instant. Au verset 20, « Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez-y, quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. » Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore fait ce pas, ce choix de suivre Jésus-Christ, Il n'y a vraiment aucune raison d'attendre. Plus longtemps. Pour ce choix qui apparaît comme une évidence, mais aussi comme une nécessité. En fait, c'est facile de faire le choix d'aimer un Dieu qui vous aime déjà le premier. Il a tout accompli pour nos péchés. Nos péchés ne constituent plus un obstacle entre lui et nous. Et la seule chose qui nous reste à faire, c'est faire un libre choix. Nous avons le choix de répondre à une déclaration d'amour, mais pas seulement à une déclaration, attention. En fait, c'est tout un plan d'amour commencé depuis la création du monde pour chacun d'entre nous. Comment ne pas être touché par l'amour de Jésus-Christ pour nous, pour chacun de nous? Nous pouvons faire ce choix de répondre à l'amour de Christ. Nous devons faire ce choix. Parce que devant nous, il n'y a que deux chemins possibles. Et il n'y en a pas d'autres. Deux chemins, comme vous l'avez vu dans le contexte de Deutéronome, s'ouvrent devant Israël. Comme il s'ouvre devant tout homme et toute femme. Et il nous appartient de choisir. L'un mène à la vie et au bonheur. Il consiste à aimer l'Éternel et à s'attacher à lui. C'est le secret d'une vie heureuse sur la terre et d'une longue vie bien au-delà de notre séjour terrestre. Écoutons la voix amie qui murmure à nos oreilles, c'est ici le chemin, marchez-y. Et l'autre chemin, peut-être parfois plein d'attrait au départ, conduit infailliblement à la mort et au malheur. Et pour conclusion de ce passage, nous pouvons lire les derniers versets de 19 et 20 du Deutéronome 30, comme une exhortation et un message d'espérance pour l'avenir. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie afin que vous viviez, vous et vos descendants. Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, et de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre et qui pourra vous accorder de passer de nombreux jours dans le pays que l'Éternel a promis par serment de donner à vos ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob. Et ce qui est formidable, c'est que dans cette salle, ce message s'adresse aussi à ceux qui ont déjà fait le choix de suivre Jésus-Christ. C'est vrai que parfois, il peut nous arriver malheureusement de tomber dans ce qu'on peut appeler de la religiosité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'en fait, il peut nous arriver à un moment donné de conditionner notre propre salut à la pratique de certaines choses, de certains rites, à l'obtention ou à la progression dans tel ou tel domaine. Les exemples sont nombreux. Mais est-ce que nous nous souvenons que nous n'avons aucun mérite dans notre salut? Et que c'est Christ qui a tout accompli. Est-ce que pour atteindre tous les objectifs que nous nous fixons dans notre vie avec le Seigneur, nous nous souvenons que nous avons surtout besoin de l'aide du Saint-Esprit en toutes choses, au lieu de nous acharner par nous-mêmes? Est-ce que malheureusement, si nous arrive de trébucher, nous n'avons pas tendance à nous disqualifier nous-mêmes, d'une certaine manière, du pardon de nos péchés accordé par notre Seigneur? Et pourtant, ce pardon, il est offert par grâce, et non pas à cause de notre mérite. Est-ce que quand le malheur survient, nous n'oublions pas un peu trop vite que Christ est aussi un Dieu consolateur? Et son amour pour nous ne vise pas simplement à nous convaincre de le suivre, mais comme dans le cadre d'une relation conjugale, d'une relation d'amour, son amour vise aussi à être un soutien pour nous chaque jour, un soutien sans faille, dans toutes les circonstances de la vie, heureuses comme malheureuses. Souvenons-nous, mes frères et sœurs, que c'est par amour que nous sommes tournés vers Christ, et non par obligation. C'est parce qu'il nous a donné tout son amour, lui le premier. Et plus encore, il renouvelle cet amour chaque jour. Chaque jour de notre vie. Prenons vraiment chaque jour le temps de profiter de l'amour et de la grâce de Dieu. Et demandons-lui vraiment de nous donner la paix, de nous donner de vivre une vie heureuse à chaque instant avec lui, malgré les circonstances du moment. C'est pour notre bonheur, Souvenons-nous de ça. C'est pour notre bonheur que nous sommes tournés vers Jésus-Christ, en réponse à son amour. Et non pas pour nous remettre encore des barrières ou des chaînes qui n'ont pas lieu d'être. Vivons pleinement ce bonheur d'être rachetés et d'être sur la bonne voie, la voie qui mène à la terre promise, en marchant avec le Saint-Esprit à nos côtés à tout instant. Chaque jour qui se lève, refaisons ce choix de profiter pleinement de l'amour de Jésus que Jésus-Christ nous offre. Amen. Et je voulais juste conclure en disant que si certaines personnes dans la salle veulent dès aujourd'hui faire ce choix de Christ, qu'ils n'ont pas encore fait, répondre à son amour, faire le choix de la vie contre la mort, n'hésitez pas à vous manifester. Vous pouvez vous lever ou juste lever la main pour que nous puissions prier pour vous, pour que vraiment vous puissiez pleinement et complètement faire ce choix de suivre Jésus-Christ et que votre vie en soit transformée par l'amour de Jésus-Christ. Sinon, vous pouvez aussi solliciter toute personne dans la salle pour vous accompagner vers notre pasteur ou un membre du conseil pour voir comment vous accompagner dans ce choix personnel de la vie en Jésus-Christ. Prions. Merci Seigneur parce que tu as vraiment un message merveilleux pour chacun d'entre nous. Que nous soyons des enfants, que nous soyons déjà des enfants de Dieu ou pas encore. Seigneur, tu as un plan d'amour pour nous. Un plan merveilleux avec des promesses merveilleuses. Une terre promise, c'est vrai, mais déjà aujourd'hui, une vie heureuse avec toi. Et Seigneur, que tu puisses vraiment nous donner par ton Saint-Esprit, de faire le bon choix et de nous y tenir. Amen.